Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, l'État islamique a-t-il encore besoin d'une armée pour frapper ? Il y a eu Kobané, puis Palmyre en Syrie, il y a eu Tikrit et Ramadi en Irak, aujourd'hui Fallujah, demain peut-être Mossoul. Les défaites de l'État islamique n'ont plus rien d'anecdotique. Alors est-ce parce que l'organisation est militairement affaiblie ou parce que ses adversaires sont davantage déterminés qu'ils ne l'étaient jusqu'à présent ? Le califat décrété il y a 2 ans n'est en tout cas plus un territoire en expansion. Pour autant, l'État islamique n'a pas cessé d'être dangereux, loin de là. Fin mai, son porte-parole appelait ses sympathisants à frapper les infidèles pendant le mois du Ramadan. Appel entendu à Orlando, en Floride, le 12 juin dernier, 49 personnes tuées dans l'attaque d'une boîte gay. Puis quelques heures plus tard à Magnanville, dans les Yvelines, l'assassinat d'un couple de policiers. Deux actions revendiquées par l'État islamique, sans qu'il ait pour autant planifié celle-ci. Les combattants de cette organisation disposent en effet aujourd'hui d'une large autonomie pour mener leurs opérations terroristes. Alors l'État islamique a-t-il encore besoin d'une armée pour frapper ? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, 3 invités. Anne-Clémentine Larocque, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne, maître de conférence à Sciences Po en questions internationales. Vous avez publié, et c'est un ouvrage qui vient d'être réédité au PUF dans la collection Que sais-je, Géopolitique des islamismes. Pour discuter avec vous, Wassim Nastre, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, spécialiste des mouvements et mouvances djihadistes pour la chaîne France 24. Et vous venez, vous aussi, de publier un ouvrage aux éditions Plomb dans la collection Tribune du Monde, État islamique. Le fait accompli. Et puis notre 3e invité, Jean-François Daguzan, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, la FRS. Vous travaillez sur le terrorisme, la violence politique et le monde arabe. Alors Jean-François Daguzan, c'est à vous que je voulais poser la première question. On parle ce soir, on va se demander si l'État islamique peut se passer d'une armée. Mais avant de répondre à cette question, il faut peut-être d'abord essayer de voir où en est cette armée de l'État islamique. Et il y a notamment cette bataille de Fallujah qui est en cours. Les auditeurs de France Culture ont pu entendre ce matin un reportage assez complet d'Omar Waman qui se trouve sur place en Irak. Est-ce que vous diriez que c'est une bataille qui aujourd'hui est une bataille décisive sur le plan militaire ou qui est avant tout une bataille, disons, symbolique ?
C'est un peu des deux. Fallujah, parce qu'elle emporte, bien avant la question de l'État islamique, des deux batailles qui ont livré les islamistes d'avant Daesh en Irak et les tribus contre l'armée américaine, Fallujah est un symbole de résistance pour eux. Donc effectivement, se battre pour Fallujah, ça parle à tout le monde dans la zone et ça représente quelque chose. Après, est-ce que c'est un problème en soi ? Tout dépend de ce qu'on considère comme la structure de l'État islamique. Mossoul sera la question, la mère de toutes les batailles, comme disait Saddam Hussein. Elle se jouera peut-être là, de la même
façon. Quand vous dites elle se jouera, c'est-à-dire vous avez une certitude que cette bataille, de toute manière, va avoir lieu ?
À un moment donné, elle va avoir lieu. Le problème est que la lenteur de la construction d'une coalition, de la reconstitution d'une armée irakienne, de la mise en place de milices soutenues par l'Iran, de la formation donnée par les forces spéciales de différents pays, les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne et d'autres, à toutes ces troupes et la participation importante et nécessaire des Kurdes qui représentent la première armée structurée aujourd'hui dans cette zone, devrait nous amener à penser qu'on ira vers la bataille de Mossoul. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc vraisemblablement, oui. Avant, il y aura peut-être Raqqa qui sera l'autre grande bataille en Syrie.
Je vous entendais acquiescer, Anne-Clémentine Larocque.
Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, je pense que Mossoul a vraiment une dimension symbolique. Raqqa aussi, hein, puisque c'est la capitale aujourd'hui de l'État islamique et que, justement, dans la prophétie, entre guillemets, de l'État islamique, eh bien, la prise de Raqqa sera la fin, justement, de leur lutte et de leur chemin et cheminement contre les mécréants. Donc, effectivement, on a véritablement aujourd'hui un enjeu qui se situe à Mossoul et à Raqqa. Et je pense qu'effectivement, comme vous disiez, les Kurdes sont un peu l'enjeu fondamental aussi pour qu'on arrive à une solution, même si la coalition internationale essaie quand même de prendre un petit peu parti à tout ça.
Est-ce qu'on sait d'ailleurs aujourd'hui, Wassim Nasr, si l'État islamique est en train de se réorganiser pour être en mesure justement de résister lors de ces prochaines batailles qui pourraient donc avoir lieu et à Mossoul et à Raqqa?
En tout cas, l'organisation de l'État islamique à partir de l'entrée en jeu, si je puis dire, de la coalition, elle a complètement changé. Ils sont plus à l'offensive, ils sont plutôt à la défensive avec des attaques offensives qui sont des attaques préventives. Voilà. Et ils ont très bien compris comment mener cette guerre de guérilla, cette guerre urbaine, avec des groupes décentralisés, avec des chefs de groupe de 15-20 combattants qui prennent les décisions eux-mêmes et qui peuvent tenir tête à une armée régulière dans un milieu urbain, comme la bataille de Grozny, par exemple, comme la bataille menée entre le Hezbollah et Tzal en 2006. Donc, ils ont compris toutes ces logiques-là, et c'est ça qu'ils mettent en œuvre aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas oublier que chaque ville qui est prise aujourd'hui, donc Tikrit, Beji, Ramadi, elle est prise au prix de sa destruction et de l'exode de la population. Et c'est aussi le cas de Fallujah. À Fallujah, l'armée et les milices supplétives sont rentrées sur un axe du quartier Nizal. Ils sont arrivés jusqu'au centre-ville, mais ils n'ont pas sécurisé, par exemple, les flancs. Et depuis, il y a des combats dans presque tous les quartiers de la ville. Donc avant de crier victoire, il faut se rendre compte aussi que ces batailles seront longues et l'exode des populations pose un vrai problème derrière. Parce qu'on se connaît tous le problème, par exemple, c'est un exemple très concret que tout le monde connaît, l'exemple des problèmes des camps palestiniens. Depuis 1948, il y a eu ce problème des camps. Aujourd'hui, toutes les villes détruites et les populations en exil, les populations sunnites pour être précises, sont mises dans des camps. Donc si cette génération-là est écrasée par la force militaire, s'il n'y a pas de solution politique viable à moyen ou long terme, il y aura une autre génération qui sera encore plus radicale et encore plus revendicative.
Est-ce qu'on peut dire en tout cas qu'aujourd'hui, en tout cas à l'heure actuelle, je parle de juin 2016, il n'y a plus, ou en tout cas le projet politique d'expansion territoriale est suspendu de la part de l'État islamique?
Oui, Jean-François Daguzan. Je crois, si vous voulez, étant totalement d'accord avec ce que viennent de dire mes deux collègues, aujourd'hui on est dans une bataille défensive massive et que il faut savoir que Daesh a piégé toutes les maisons. Tout est comme il s'était produit d'ailleurs de la même façon lors de la première bataille de Fallujah, quand les Américains, les Marines en particulier, avaient dû récupérer la ville morceau par morceau, quartier par quartier, maison par maison. On est dans la même logique. Des explosifs rustiques partout, tout est piégé. Et bien sûr, la capacité à s'auto-détruire soi-même comme élément central du combat. Donc, c'est une bataille qui va laisser effectivement exsangue et détruite toutes les villes dans lesquelles se déroulera.
Mais est-ce que cette
pour revenir à la question que vous posiez.
Oui, mais alors justement, je vais la reposer différemment. C'est-à-dire, est-ce que cette stratégie défensive, pour vous, Jean-François Daguzan, c'est une stratégie contrainte par la coalition internationale, ou bien est-ce que c'est une stratégie qui est réfléchie, c'est-à-dire
C'est un mode de combat qui préexistait à Daesh, puisqu'il a été appliqué aux Américains entre 2003 et 2006. Mais surtout, ce qu'il faut voir, le succès de Daesh jusqu'à la reprise des offensives, on va dire. Il s'est fait sur quoi? Il s'est fait sur du vide. C'est ça la réalité. La grande percée jusqu'à Palmyre, il n'y avait personne. Quand Daesh a commencé à s'installer en Syrie, quand il fait l'armée libre syrienne, les autres groupes islamistes sont allés combattre frontalement les troupes de Bachar el-Assad. Qu'a fait l'État islamique? Il est allé s'installer à la frontière où il n'y avait personne. Ils ont pris la frontière pour se positionner vis-à-vis de l'Irak, puis ils sont passés en Irak rejoignant la partie irakienne. Et là aussi, quand ils rencontraient, Mossoul est tombé comme un fruit mûr en claquant des doigts. C'est-à-dire que l'armée irakienne a foutu le camp en laissant les clés du char allumées sur la en train de rouler, et ils sont allés jusqu'à Fallujah ne rencontrant personne. Donc à partir de ce moment-là, évidemment, c'était facile. Aujourd'hui que nous sommes dans une réoffensive des différents groupes qui luttent contre Daesh, ils se retrouvent évidemment dans cette position de se défendre à mort. Voilà quel est le changement, si vous voulez, qui s'est produit.
Anne-Clémentine Larocque.
Oui, et donc je suis absolument d'accord avec l'idée que effectivement l'État islamique comble le vide. C'est vraiment ça cette idée, c'est-à-dire que vous avez des ouvertures, des failles, et il y a une capacité à pouvoir remplir le vide très rapidement avec des catalyseurs qui sont sur place. Aussi, par rapport à ce que vous disiez, le fait d'avoir une rétraction effectivement territoriale, c'est vrai au Moyen-Orient, mais en même temps, on a l'ouverture de succursales, en tout cas pensées, en Afrique, en Libye. Ils y pensent aussi, bien sûr, dans le Caucase, via les Tchétchènes et l'émirat du Caucase, donc, qui a été mis en place, même si l'émir n'est plus en place actuellement. Et donc, on est quand même dans une adaptation constante aux failles et aux creux qui peuvent exister, en fait.
Et en Afghanistan.
Et en Afghanistan, bien sûr.
Mais ils ont frappé
et par ailleurs, il y a d'ailleurs des...
Aujourd'hui, ils ont frappé à Kaboul les soldats népalais qui défendaient ou qui avaient en charge la sécurité de l'ambassade américaine et à la grande surprise des talibans. Parce que les talibans, au début, ils ont revendiqué à mi-mot. Donc, ce que aussi l'État islamique a fait au Yémen. Donc, ils sont en train de s'implanter partout. Il ne faut pas qu'on, dans notre grille de lecture, on se concentre que sur la Syrie et l'Irak. La Libye était dans le viseur de l'État islamique depuis 2013-2014.
Mais si je suis un petit peu tous les trois, pardonnez-moi, juste pour peut-être régler cette question de l'armée, disons, peut-être que le terme est mal trouvé. Parce que si je vous écoute là ce soir, vous êtes un petit peu en train de dire que finalement, si l'État islamique, alors en tout cas, je reviens en Irak et en Syrie, hein, a réussi un certain nombre de percées territoriales, c'est aussi parce qu'en face, il n'y avait pas grand monde et que dès lors qu'il y a une volonté de reconquérir ces territoires, l'État islamique recule et change de stratégie. Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait répondre à la question de ce soir, l'État islamique a-t-il encore besoin d'une armée pour frapper? On pourrait y répondre que l'État islamique n'a jamais eu une véritable armée telle qu'on la conçoit, nous, ici,
c'est pas ça. Il n'y a jamais eu une armée telle qu'on la conçoit comme une armée, si je puis dire, régulière. Mais moi, je ne suis pas d'accord à dire qu'il a fait que combler du vide. Parce qu'il y a eu des grands combats, que ce soit avec l'armée syrienne, ou de Bachar al-Assad, ou que ce soit avec les rebelles. La guerre contre l'État islamique, c'est les rebelles qui ont été en première ligne, bien avant l'entrée en jeu des Occidentaux. On était en septembre 2014. Et en ce qui concerne la guerre contre l'armée d'Assad, c'est vrai qu'il y a un moment, il y a eu une sorte de les deux se sont évités parce que l'armée syrienne voulait sécuriser l'axe Damas-Homs, Latakié, et l'État islamique se concentrait effectivement sur la frontière irakienne et la frontière turque, donc ils se sont évités. Mais ça s'est très vite terminé à l'été 2014, avec la prise de la division 17 à Raqqa et de Tabqa. Mais pour revenir à votre question et au cœur de ce sujet aujourd'hui, une armée régulière ou des reculs sur le terrain n'ont rien à voir avec la capacité de nuisance terroriste en Occident ou ailleurs. Quand ils étaient en train de reculer à Sinjar, ils ont descendu un avion de ligne russe et personne n'a voulu le croire, avec une canette piégée. Ils ont frappé à Paris avec un commando de 8 kamikazes alors qu'on dit ils reculent sur place. Donc c'est deux modes opératoires différents et il n'y a pas de cause à effet entre ces deux, entre des pertes sur le terrain et une capacité de nuisance en Occident ou de nuisance terroriste tout court.
Alors est-ce que Anne-Clémentine Larocque et Jean-François Daguzon sont d'accord là-dessus sur l'idée qu'il faut déconnecter en fait ce qui se passe sur le terrain en Irak et en Syrie notamment, et puis les actions, les attaques terroristes qui ont lieu notamment sur les sols européens et américains. Ce ne sont pas les seuls endroits d'ailleurs.
C'est assez compliqué parce qu'on voit aujourd'hui l'État islamique comme véritablement une structure, un système, on en parle de système plus que d'organisation d'ailleurs, à projection multiples, avec donc bien sûr l'interaction du local et du mondial, c'est-à-dire la portée mondiale et la portée locale, ce qu'on appelle la glocalisation du djihad. Et cette idée-là, justement, vient un peu contredire ce que vous venez de dire, dans la mesure où je pense quand même qu'il y a quand même un effet, à partir du moment où les Russes se mettent à frapper, vous avez quand même une volonté aussi d'agir sur d'autres territoires qui est plus importante, on le voit, au niveau de justement de ce qui a pu se passer au niveau des attentats, etc., qui a été quand même prouvé. C'est-à-dire qu'il y a une rétractation quand même sur place qui fait qu'on essaye quand même de déployer au niveau des territoires lointains.
Oui, mais là où je ne suis pas d'accord avec ça, c'est que ça fait cause à effet. Ce n'est pas le fait de rétracter sur le terrain qu'ils agissent dehors. Parce que quand ils ont commencé à kidnapper des journalistes occidentaux, on était en 2013, bien avant l'entrée en jeu de la coalition. Quand ils ont envoyé les équipes pour frapper à Paris, ils n'étaient pas vraiment sur le recul sur place. Donc ils ont cette capacité d'anticipation et effectivement, peut-être quand ils reculent, ils activent. Mais ils ont toujours cette longueur d'avance.
Jean-François Daguzon.
Oui, je crois qu'il faut absolument, pour que les auditeurs comprennent, et faire en sorte de leur faire comprendre qu'il faut décorréler l'État islamique territoire et l'État islamique idéologie universelle. Parce que les deux marchent de front, mais je suis aussi absolument d'accord avec Wassim, il ne s'auto-modifie pas, si vous voulez. L'idéologie universelle fonctionne toute seule, à partir de l'aspiration de l'islam radical armé qui est monté depuis 30 ans maintenant et dont on a vu une première version Al-Qaïda et désormais une version État islamique, c'est-à-dire celle du tout maintenant. Je prends le pouvoir, je prends le territoire ou je poursuis le combat contre les impies, les koufars et tout ce que vous voulez, c'est-à-dire nous. Et la conquête du territoire, qui a été un moment contingent où on a essayé de créer le territoire, l'État islamique en tant que tel, mais qui se référait d'ailleurs à deux logiques, la logique irakienne avec les anciens de Saddam, plus les tribus qui en avaient ras-le-bol de se faire traiter comme des chiens par l'État chiite irakien, et de l'autre côté, ces combattants étrangers associés avec les plus idéologues des islamistes syriens qui ont créé la partie syrienne. Mais de l'autre côté, vous avez ce que nous subissons, nous, en direct, c'est-à-dire des gens qui s'auto-désignent État islamique et qui n'ont besoin de rien. Et si l'État islamique territorial venait à disparaître, ça n'enlèverait absolument pas la menace dans laquelle nous sommes plongés.
Bah, attendez, les conquêtes territoriales, elles participent quand même du prestige de cette organisation qu'est l'État islamique. Et plus il y a de conquêtes, plus il y a aussi peut-être des preuves que c'est une révolution, puisqu'on parle beaucoup de révolution, c'est notamment ce que vous faites, Wassim Nas, dans votre livre. C'est aussi la preuve que c'est une révolution, en tout cas un projet politique qui peut fonctionner. Donc l'État islamique a bien besoin de ses conquêtes pour ensuite asseoir et son idéologie et son action à travers le monde, non, Anne-Clémentine Laroche?
En même temps, à chaque fois qu'il y a un attentat, justement, l'idée du martyr, c'est aussi de prouver que c'est possible et de prendre une place et un rôle dans toute cette histoire-là. Donc en même temps, il crée aussi l'histoire avec ce qui se passe dans les territoires justement du lointain, entre guillemets.
Ça veut dire que vous allez jusqu'à dire qu'aujourd'hui, l'État islamique pourrait se passer de ses conquêtes territoriales et ça n'enlèverait rien à sa capacité d'action.
Mais regardez Al-Qaïda. Al-Qaïda était la démonstration, 10 ans, 15 ans avant, de ce phénomène. Il y a eu le 11 septembre, on est allé envahir l'Afghanistan et Al-Qaïda a éclaté comme des boules de mercure, si vous voulez, était aller s'installer partout où il a pu. Alors Al-Qaïda au Maghreb islamique a été le plus réussi de l'ensemble des Al-Qaïda, mais Al-Qaïda au Yémen aussi, bien sûr. Et donc, si vous voulez, le phénomène de destruction de l'espace territorial produit de la propagation.
Oui, mais sans oublier ce qui est très très important, c'est la dimension religieuse du fait et la dimension apocalyptique du fait. Qu'est-ce qu'il dit l'État islamique ? Depuis sa création en Irak, il dit nous sommes les vrais détenteurs, les vrais protecteurs des musulmans, et vous allez voir, le monde va se rallier contre nous. Et qu'est-ce qu'on voit en Syrie? On voit donc les avions de chasse syriens qui font la guerre dans leur pays, les avions de chasse de la coalition, les milices chiites irakiennes envoyées depuis 2012, et ça on oublie de le dire, et toutes les factions considérées comme apostats par l'État islamique, qui se battent contre cet État islamique. En Irak, qu'est-ce qu'on voit? Les avions de la coalition, les Américains, avec la coalition arabe, donc Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, etc. Et au sol, on voit des milices donc chiites iraniennes, avec Qassem Soleimani qui mène le combat. Et ça, on l'a vu à Amerli, en 2014. Alors ça, c'est la droite ligne de l'idéologie et du message de l'État islamique, en disant, regardez, tout le monde se rallie contre nous. Donc, les musulmans apostats, qui ne considèrent plus comme musulmans, les pays du Golfe, les monarchies corrompues, les pays des mécréants, donc les occidentaux, les Russes, quand on voit le patriarche Kirill bénir les avions avant que les avions n'aient frappé en Syrie, et il dit aux musulmans là-bas, aux musulmans sunnites, regardez, on était sur le bon chemin, on vous a dit dès le début, tout le monde vous veut du mal et c'est nous votre défenseur. Donc voilà le résultat aussi. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que si les populations sont à défaire de cet État islamique, surtout en Irak, en moindre mesure en Syrie, parce qu'il y a encore d'autres options, il faut quelque chose d'autre, de viable. Il faut un projet politique viable, autre que celui donc, de l'État islamique. Et pour le moment, vu la conjoncture sur le terrain, il n'y en a pas.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
L'État islamique a-t-il encore besoin d'une armée pour frapper? On a commencé déjà à pas mal répondre à cette question. On le fait avec ce soir Jean-François Daguzan, Wassim Nasr et Anne-Clémentine Larocque. Anne-Clémentine Larocque, je rappelle que vous avez écrit Géopolitique des islamismes. Jean-François Daguzan, je crois que c'est vous tout à l'heure, évoquiez finalement le parallèle peut-être qu'on peut faire aujourd'hui entre l'État islamique et puis ce qui est devenu Al-Qaïda. Est-ce qu'on pourrait parler d'une forme d'Al-Qaïdaïsation, pardonnez-moi ce néologisme, mais de l'État islamique aujourd'hui, c'est-à-dire en tout cas une organisation qui est peut-être moins centralisée qu'autrefois et qui laisse beaucoup plus d'autonomie à ses propres combattants, que ce soit des combattants qui sont organisés en cellules ou des combattants qui sont peut-être plus, comment dire, là aussi individualisés, disons, et qui ont une marge de manœuvre qui est un peu plus large qu'elle ne l'était auparavant.
Alors il ne faudrait pas forcément dire ça aux djihadistes de l'État islamique qui précisément justement donc aujourd'hui veulent se différencier par rapport à Al-Qaïda, notamment vis-à-vis de leur discours, vis-à-vis des chiites, hein, c'est ce qui a été quand même l'un des éléments clés hein, pour différencier les deux idéologies en 2013. Après, effectivement, on a deux éléments, c'est qu'au niveau du recrutement, en fait, Abu Musab al-Suri, qui faisait partie justement donc des grands prédicateurs d'Al-Qaïda, avait déjà vu, et Ben Laden n'était pas forcément d'accord avec ça, l'idée qu'il fallait recruter en masse. Et que le recrutement de masse sous-entendait aussi, eh bien, à la fois une attaque au niveau de l'ennemi proche et au niveau aussi de l'ennemi lointain. Donc, on a effectivement un système qui s'est mis en place, mais parler d'Al-Qaïdisation, c'est pas exactement la même chose, puisque de toute façon, Al-Qaïda a été mise en place dans un contexte très particulier et a eu aussi, bien sûr, forcément, eh bien, l'idée de prendre en compte le djihad des années 80 entre les Afghans et les Soviétiques et de reprendre justement tous les frustrés, entre guillemets, qui avaient justement participé à ce djihad, qui n'avaient pas pu le mettre en place dans leur État. Là, l'idée de l'État islamique, c'est quand même différent. C'est de mettre en place un califat mondial, ça ils le disent très clairement, dans un avenir qui est quand même plutôt proche par rapport justement à Al-Qaïda qui n'avait pas forcément de calendrier aussi précis. Mais au niveau, effectivement, des succursales implantées, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient, ou même aujourd'hui, hein, la volonté donc de toucher, bien sûr, les territoires de européens et américains, il y a une volonté donc d'exister partout.
Ces succursales, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui, Jean-François Daguzan, notamment celles qui sont sur le sol européen? Est-ce que ce sont des structures qui sont très organisées? On a vu, par exemple, avec ce qui s'est passé avec ce double assassinat à Magnanville il y a quelques jours dans les Yvelines, que c'était plutôt un individu qui avait l'air d'être isolé, donc en tout cas qui n'appartenait pas à une cellule clairement identifiée. Est-ce qu'on a différents types, finalement, de combattants aujourd'hui?
En réalité, vous retrouvez des tendances qui existaient déjà dans la deuxième partie d'Al-Qaïda international, on va dire. Les petites structures, elles se mettent en place pour des raisons tactiques à partir du moment où la police a beaucoup plus de facilité à démanteler des grands réseaux. Il y a aussi un deuxième élément important qui est celui de l'auto-saisine, si vous voulez, ou de l'auto-radicalisation, au sens de que Al-Qaïda faisait déjà ça, mais ça a été renforcé par l'État islamique, que on ne vous demande pas forcément de vous manifester avant, mais de vous manifester après. Donc la revendication a posteriori, mais que l'on trouve dès 2002 chez Al-Qaïda, hein, donc rien d'original non plus, est quelque chose de très important, dans la mesure où il est extrêmement facile pour l'organisation de revendiquer tout acte réussi ou non, qui est pris en compte par quelqu'un qui dit « je le fais pour le compte de l'État islamique ». Donc à partir de là, évidemment, il y a une espèce d'affolement chez les analystes ou dans les médias, dire « ah mon Dieu, mais ces choses-là, on ne l'imaginait pas », sauf que ça existait déjà depuis de très nombreuses années et que c'est simplement maintenant que ça sort. Pourquoi ? Parce que la différence entre Al-Qaïda et l'État islamique, c'est que c'est le passage de 100 à 1000. C'est ça qui fait la différence. C'est le fait que désormais, ce sont des milliers de personnes qui se revendiquent de l'État islamique et qui sont donc éventuellement capables de passer à l'acte. Et à ce moment-là, ce qui faisait que la police pouvait contrôler en gros un espace qui était raisonnable, rend que les choses aujourd'hui sont extrêmement difficiles à travers tous les potentiels de radicalisation disponibles.
Donc il peut y avoir en tout cas aujourd'hui, Wassim Nasr, des actions terroristes, des attaques attaques terroristes revendiquées par l'État islamique, mais dont cette organisation n'avait pas connaissance avant qu'elles se produisent.
C'est un peu plus nuancé que ça. Déjà, il faut se dire que le terrorisme, c'est un mode opératoire, c'est pas un dogme. Donc, il est utilisé à des fins politiques. Il est utilisé depuis la nuit des temps pour des fins politiques. Donc, l'État islamique n'a rien inventé. Donc, quand ils choisissent de passer, par exemple, à la vitesse supérieure en envoyant une équipe taper à Paris, là, c'est choisi, commandité, organisé. Mais quand il y a des personnes qui commettent des actes en leur nom et ils revendiquent, le choix des mots est très important. La première attaque qui a eu lieu sur le sol américain, c'était à Texas, contre des caricaturistes. C'était deux assaillants. L'attaque était un échec. Les deux ont été tués par les forces de l'ordre. Ils ont été qualifiés de soldats du califat. Après, on a eu l'attaque d'Orlando. Donc l'assaillant a été qualifié aussi de soldat du califat. Entre deux, on a eu l'attaque de San Bernardino, le couple. Et le couple, ils n'ont pas été qualifiés de soldats, ils ont été qualifiés de sympathisants.
C'est quoi la différence entre soldats et sympathisants?
Quand c'est un sympathisant, ils ne sont pas sûrs de la personne en face d'eux. Ils ne sont pas sûrs de son CV, en gros, pour vulgariser. Qui il est, pourquoi il l'a fait. Ça s'applique aussi à celui qui a attaqué une chocolaterie en Australie. Ils l'ont qualifié de sympathisant. C'était un converti, un chiite reconverti, erreur reconverti. Donc, ils n'étaient pas sûrs de lui. Et c'est pour ça que moi, je dis, encore une fois, il ne faut pas parler de loup solitaire. Parce qu'ils ne sont jamais solitaires. Hein. Au nombre de loups, on est face à une meute aujourd'hui. Et donc, il y a toujours des liens. Que ça soit des liens avec l'organisation directement ou des liens distendus. Ça veut dire, celui qui a fait les assassinats de Magnanville avait des copains à lui qui sont en Syrie. Il était impliqué dans une filière via la Syrie. Il était sur écoute pour cela, surveillé pour cela. Donc, il y a une de ses connaissances, au moins, qui a approuvé ce personnage pour qu'il soit qualifié de soldat du califat et que la revendication ressorte de l'autre côté par les canaux officiels de l'État islamique. Pour Orlando, même si le FBI rechigne aujourd'hui à créer ce lien parce que c'est une politique du déni que je ne comprends pas, ils ont retranscrit l'appel qu'il a fait au 911 sans citer l'État islamique, comme si on cite pas la chose, elle n'existe plus. Ouais. Donc ça, c'est la politique des pays arabes pendant des décennies, et je découvre qu'on refait la même chose ici en Occident, et c'est assez affligeant. Mais bon, pour revenir au cœur de ce que je disais, ça veut dire ce personnage à Orlando, il était peut-être aussi connu, même certainement connu, parce qu'on oublie de dire son meilleur ami, avec qui il allait à la même mosquée, et le premier kamikaze de l'histoire américaine, et qui s'est fait exploser dans les rangs d'Al-Qaïda à l'été 2014 en Syrie. Un Américain, blanc, aux yeux bleus, avec une gueule d'ange, et ça, on ne le dit pas assez. Ça veut dire, si les Américains décident aujourd'hui de l'occulter, mais ça existe. Ça veut dire cet attaquant d'Orlando, même s'il était peut-être gay, peut-être qu'il a changé d'avis, peut-être qu'il savait pas c'est quoi la différence entre le Hezbollah et l'État islamique, finalement il a fait un carnage au nom de l'État islamique. C'est ça la réalité aujourd'hui.
Donc vous dites ces liens, ils existent toujours, sauf que ce sont des liens qui sont plus ou moins forts, ou disons peut-être plutôt plus ou moins faibles, ce qui rend évidemment extrêmement compliqué la surveillance et le contrôle de ces combattants-là, qui finissent par être en tout cas revendiqués comme combattants par l'État islamique, puisque alors là on n'est pas seulement sur des personnes qui appartiennent à des cellules, mais sont des dizaines de milliers de personnes, sans doute, Anne-Clémentine Larocque.
Oui, mais c'est ça le problème, et donc c'est pour ça qu'on parle d'une chaîne de responsabilité, en fait, qui n'est pas forcément facile à évaluer tout le temps, avec des lieux d'incubation qui sont très difficiles, en fait, à surveiller, puisque vous avez Internet, les réseaux sociaux, vous avez aussi la prison, bien sûr, il ne faut pas oublier d'en parler, justement, et vous avez, bien sûr, les fréquentations, ce qui n'est pas véritablement palpable, ou on ne peut pas le surveiller tout le temps. Donc, en effet, on est toujours dans cette nuance entre les liens qu'il faut bien souligner, le loup solitaire véritablement malade qui veut frapper sans avoir aucun lien avec quoi que ce soit est extrêmement rare en fait aujourd'hui.
Il y a eu un exemple chez l'extrême droite, c'était Breivik par exemple. Oui. Mais chez les djihadistes, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'exemple chez les djihadistes de vrai loup solitaire.
Oui, j'avais dit il y a quelques mois une phrase qui était les loups solitaires chassent en bande. Ce qui est à peu près ce que vient de dire Wassim. La référence à l'action, elle peut être une référence individualisée. Mais on recombine cette action dans le tout global de l'idéologie islamique et du rattachement individuel. Et effectivement, il y a une labellisation, finalement, qui est faite par l'organisation pour s'assurer que c'est fait dans les formes, que la véritable intention religieuse est là et que ce n'est pas un désaccès pur et simple.
Une des premières vidéos, il y a eu deux vidéos de, c'est pas de revendication, mais ils saluaient l'acte d'Orlando, la deuxième à l'émane de la branche de l'État islamique en Afghanistan. parce qu'il est afghan. Donc ça aussi, ça parle aux gens. Et dans cette vidéo, ils appellent les gens à les rejoindre. Ils attaquent encore une fois la communauté gay. Mais c'est quand même, ce n'est pas rien. Il faut le prendre en considération qu'au-delà d'un simple communiqué de revendication, il y a une vidéo faite depuis le fin fond de l'Afghanistan pour revendiquer une attaque à Orlando. Donc il faut quand même se dire aujourd'hui que les liens directs du terrorisme qu'on a connus au XXe siècle, ce n'est plus du tout aujourd'hui la même équation. Il faut changer de grille de lecture. Le terrorisme du XXe siècle, il y avait toujours un État avec qui négocier, il y avait toujours quelqu'un derrière, il y avait toujours une sorte de... Il y avait un interlocuteur. Aujourd'hui, il n'y a pas d'interlocuteur. Aujourd'hui, il y a l'État islamique qui est en train de frapper sur la planète, et cette capacité de frapper... Et cette capacité d'attirer des allégeances en allant de la Libye jusqu'aux Philippines, jusqu'en Indonésie ou ailleurs, ou à l'Afghanistan, dans les fiefs du Taliban, dans les fiefs d'Al-Qaïda au Yémen, et à prendre en considération parce que, comme ça a été dit, cette idéologie, elle est transnationale, elle est transethnique, et l'appel d'air qu'a réussi aujourd'hui l'État islamique, il a dépassé de loin les meilleures espérances d'Al-Qaïda.
Et en fait, ce qui est véritablement efficace avec eux, c'est vraiment l'agence de communication derrière. Ils utilisent absolument, ils instrumentalisent complètement l'œuvre de ces personnes individualisées. On peut le voir d'ailleurs à Magnanville, c'est-à-dire que le lendemain, je crois que c'est le 16 juin, il y a eu une vidéo de 11 minutes où on voit justement donc la Russie Abala, qui est présumée coupable, qui est en train donc d'expliquer pourquoi, qui doit être visé, pourquoi il le fait, à qui. Et ça a été fait par des relais, bien sûr, de l'État islamique qui tweetent, qui sont sur Facebook, qui vont ensuite diffuser ça sur les réseaux sociaux. Donc ils ont une formidable capacité, en tout cas, de déploiement de l'information en continu.
Et ça, là, on parlait de liens, juste pour rester sur les vidéos deux secondes, on parlait de liens. En fait, là aussi, Abala, il a fait un live Facebook chez lui. La vidéo a été regardée 90 fois, je pense. Et parmi les 90 personnes, il y avait quelqu'un en Syrie qui l'a repris à son compte pour qu'elle soit rediffusée par les agences officielles. Donc le lien, il existe. Parce que du moment où ils font ça, ils endossent complètement la responsabilité de l'acte. Et soyez sûrs et certains, si ils endossent un acte qu'ils n'ont pas fait, en termes de communication, ça va être très nuisible pour eux. Rappelez-vous le crash d'Egypter, tout le monde parlait de l'État islamique, alors que ce n'était pas eux. Ils auraient pu très bien le revendiquer, il y a eu 300 morts, au lieu de revendiquer l'assassinat de deux policiers. Parce que en termes d'échelle sur la guerre qui se déroule sur la planète, le meurtre des deux policiers, aussi horrible soit-il, est moins important que les 300 morts d'Égypte. Ils auraient pu les revendiquer, mais ils ne l'ont pas fait. Donc comme ça se disait, la communication est très importante pour eux et vitale.
Et en même temps, c'est une communication très réactive, parce que quand il y a revendication, ces revendications, on a l'impression qu'elles arrivent de plus en plus vite aujourd'hui.
Oui, et ça, alors pour le coup, c'est une différence fondamentale avec Al-Qaïda. Al-Qaïda, on avait des cassettes vidéo pourries avec filmées n'importe comment dans des coins de salon avec trois kalachnikovs et une image qui tremblait. Et là, nous avons un matériel de niveau professionnel, la vitesse de réaction, de véritable production que l'on peut voir, hélas, sur Internet en cherchant un peu, c'est vraiment pas compliqué. Des journaux qui soient désormais quasiment dans toutes les langues, en français, en anglais depuis toujours, mais en arabe, en anglais, en français désormais. Vous avez Dar al-Islam qui est extrêmement bien fait, je ne pourrais pas dire ça, mais techniquement parlant, c'est tout à fait excellent. Et donc, cette communication ultra-moderne, alors qui va passer surtout par les réseaux sociaux que vous évoquiez, Instagram, Facebook, Twitter, etc., rend les choses absolument redoutables, parce que l'État islamique a compris dans quel monde nous vivions et avec quoi il fallait combattre. Et l'image est un de ces éléments centraux du combat.
Alors justement, par rapport à cette façon dont évolue le terrorisme, Wassim Nasr disait tout à l'heure, bon, on n'est plus du tout dans le terrorisme du XXe siècle. À l'époque, il y avait des interlocuteurs. Aujourd'hui, il n'y a pas d'interlocuteur possible. Enfin, oui, c'est la question que je voulais vous poser justement. Est-ce qu'il n'y a absolument aucun interlocuteur possible aujourd'hui face à l'État islamique?
On avait déjà ça. Dagnizan. Là aussi, il faut toujours revenir un peu à l'histoire. On avait déjà ça avec Al-Qaïda. Mais c'est vrai, essayez de me donner la revendication à laquelle vous allez souscrire si l'État islamique assassine les gens dans la rue. Rendre l'Espagne à l'Andalousie du XIIe siècle.
Non, mais il y a une revendication politique, justement, aujourd'hui.
Alors, il y a des revendications, mais qui sont tellement inaccessibles que, de toute façon, ça se transforme par de la non-revendication. Al-Qaïda disait il faut que le Dar al-Islam soit restitué aux musulmans. Ça va donc de l'Andalousie jusqu'à l'Indonésie. Réponse non. On ne va pas restituer la moitié de l'Espagne, par exemple. Bon, je donne cet exemple parce que c'est le plus intéressant. Et donc, à partir de là, ou alors c'est les Juifs et les chrétiens doivent abandonner Jérusalem. Voilà, c'est l'autre revendication. Al-Quds doit redevenir. Réponse, il n'y aura pas de restitution de Jérusalem. Donc, si vous voulez, on est sur des niveaux d'exigence de l'État islamique que la réalité fait que les revendications sont inacceptables ou inapplicables.
Il y a une forte conviction, justement, derrière ces revendications de l'État islamique, Anne-Clémentine Larocque, ou bien est-ce que vous considérez aussi que ce sont des revendications, en tout cas des projets dont les responsables de cette organisation savent très bien qu'ils ne peuvent pas aboutir, en tout cas pas aboutir de la manière relativement classique, disons, c'est-à-dire qu'ils passent à un moment ou à un autre par des négociations.
La première chose, en fait, par rapport à ce que vous disiez, je pense qu'il y a un interlocuteur auquel on ne pense pas assez, ce sont les acteurs économiques. Les banques, par exemple, on voit bien qu'Al-Qaïda a eu des rapports avec les banques, qu'il y a eu des investissements, qu'il y a eu quand même des tractations financières qui font que nécessairement vous êtes en lien avec ceux qui revendiquent quelque chose. Alors après, c'est pas effectivement de l'ordre politique nécessairement, mais ils ont quand même une imbrication dans la mondialisation qui fait que peut-être par ce biais-là, on peut justement donc évoquer quelque chose. Après, par rapport à ce que vous dites, est-ce qu'ils ont conscience que leur projet n'ira pas jusqu'au bout ? Je pense pas du tout. Je pense que justement, on est véritablement dans un logiciel qui devient totalitaire aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez le projet. Et puis vous avez justement une toute puissance du projet par rapport au reste.
C'est tout à fait eschatologique.
Voilà, c'est tout à fait eschatologique. Et que c'est pour ça que de plus en plus, on voit des comparaisons, des genres des études tout à fait intéressantes, de comparaisons avec le nazisme, le fascisme, etc., qui sont très clairement ancrées dans des États. Mais pour le coup, on peut parler effectivement de systèmes totalitaires ou totalisants.
Wassim Nasr, dans votre livre, vous dites notamment l'État islamique ne se contente plus d'actions militaires ou terroristes, c'est ce dont on parle ce soir. Il cherche à gagner les cœurs et les esprits en s'octroyant les prérogatives des États qu'il cherche à remplacer en Syrie ou en Irak. Cette bataille des cœurs et des esprits, aujourd'hui, vous considérez qu'elle est allée suffisamment loin pour que la question ou la problématique de l'État islamique soit encore longtemps devant nous?
Ben, elle est allée en tout cas suffisamment loin pour que les pays occidentaux décident de s'engager pour mettre un terme à cet État islamique. Et l'État islamique en tant que tel, on peut l'appeler comme on veut, il est traité par les forces de la coalition comme un État. Pourquoi ? Parce que quand il y a une guerre entre deux États, qu'est-ce qui est frappé ? Les centres névralgiques, les routes, les infrastructures, les hôpitaux, les boulangeries. Donc tout ce qui fait que cet État peut administrer une population et assurer à cette population un minimum, strict minimum de vie, de sécurité. Et donc aujourd'hui, en tapant les villes, pour revenir sur les villes, l'État islamique perd cette prérogative régalienne qui est d'administrer des populations et qui est aussi d'avoir des ressources, parce que dans les villes, il y a des ressources, et aussi cette prétention étatique à assurer une sécurité pour qu'une population puisse vivre d'une manière plus ou moins normale. Et pourquoi la coalition traite l'État islamique comme un État, donc militairement du moins, c'est parce que dans l'espoir que en Syrie, des franges de la population se rebellent contre cet État islamique, parce que dans une guerre, c'est pas blanc ou noir, il y avait bien sûr un noyau dur de convaincus, mais aussi beaucoup d'opportunistes, il y a beaucoup d'alliances de clans, on sait comment ça se passe. Donc il y a en Syrie, ils espèrent que la population se rebelle, surtout dans l'Est et dans la région d'Al Jazeera. Et en Irak, à défaut que la population se rebelle parce qu'il n'y a pas d'alternative, ils espèrent que la population s'éloigne de l'État islamique, se dissocie, se désolidarise de cet État islamique. Et c'est pour ça que, en tout cas, les décideurs, à la différence des commentateurs, ils ont pris la mesure de la chose dès 2014, ils ont commencé à œuvrer, à combattre l'État islamique par le biais des rebelles syriens dès fin 2013, début 2014. Et après, la coalition est entrée en jeu quand ils ont vu que l'entrée en jeu directe avec l'aviation et maintenant les forces spéciales était nécessaire pour avoir des résultats sur le terrain.
Alors, on verra dans les prochains mois si cette stratégie justement fonctionne. Merci en tout cas beaucoup à tous les trois de nous avoir éclairés sur ce sujet. Jean-François Daguzan, Wassim Nasr et Anne-Clémentine Larocque. Vos ouvrages respectifs sont sur notre site franceculture.fr à la page du Grand Hamoud, page sur laquelle vous pouvez poursuivre la discussion, nous donner vos commentaires. Vous pouvez également réécouter l'émission aussi longtemps que vous le souhaitez, la télécharger pendant un an. Un grand merci à toute l'équipe du Grain, Fanny Richer, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Cyril Baer, Tanguy Omri. Émission réalisée par Anne Kobilac avec à la prise de son Jacques Hubert. Demain, va-t-on vers un doctorat au rabais? Ce sera la question à partir de 18h20.